Bonjour à tous. Bus et tram gratuits depuis ce matin à Montpellier. Événement dans la plus grande ville de France pour l'instant à appliquer la mesure. Une promesse de campagne, invité de ce journal, Michael Delafosse, le maire de Montpellier et de la métropole. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas distribué à grande échelle avant le milieu de l'année prochaine, mais on a déjà une idée du prix. Moins de 10 euros selon le patron de Sanofi France, invité ce matin de France Inter. C'est le titre majeur des journaux en Espagne. Lionel Messi reste au Barça, mais la crise entre Messi et le FC Barcelone a laissé des traces. Dans ce journal également, le Tour de France avec un week-end à la montagne dans les Pyrénées, le festival américain de Deauville, beaucoup de films mais pas de stars américaines, et puis la mort d'Annie Cordy hier soir à l'âge de 92 ans. La météo de ce samedi, soleil au sud, nuages au nord, un ciel partagé, nous dira Jean-Michel Golinski. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur la reconnaissance faciale par vidéosurveillance. Officiellement, elle est interdite en France, mais vous allez voir que peu à peu, elle se met en place.
Secret d'info, Jacques Monin, à 13h20.
France Inter.
Il y a des mesures comme cela, des mesures populaires pour les usagers des transports en commun lorsque les bus, trams et métros deviennent gratuits. À partir de ce week-end, à Montpellier, les transports en commun sont donc totalement gratuits. On va en parler dans un instant avec notre invité, le maire socialiste de Montpellier et président de la métropole, Michael Delafosse. Alors, les transports gratuits, plusieurs villes expérimentent déjà cette mesure avec une ambition écologique et sociale, Dunkerque, Strasbourg, Niort par exemple. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour. Bonjour Frédéric.
Au total, 35 villes ou territoires se sont déjà lancés dans l'aventure.
Oui, avec en tête de gondole, depuis le 1er septembre, vous l'avez cité, Dunkerque et son agglomération, 200 000 habitants environ, le plus grand espace européen à proposer une telle offre. Trois autres territoires de plus de 100 000 habitants ont mis en place la mesure. Il s'agit de Calais, d'Aubagne et de Niort. Des villes plus petites aussi ont sauté le pas, Dinard, Châteaudun ou encore Saint-Flour dans le Cantal. La ville pionnière, Frédéric, c'est Châteauroux. La mesure a été mise en place en 2001. Enfin, quand on passe au transport gratuit, il est très difficile de revenir en arrière. C'est arrivé une seule fois en 20 ans, c'était en 2013 à Manosque, dans le sud de la France.
Alors Thibault, les municipales sont passées par là et beaucoup de villes se montrent intéressées.
Oui, 18 villes ou collectivités comme Paris, Lille ou Millau qui vont donc regarder de très près ce qu'il se passe à Montpellier avec des projets de gratuité qui ont été promis par les élus pendant leurs campagnes électorales sans pour autant avoir été clairement fléchés dans les budgets. Maxime Huret est le président du comité scientifique de l'Observatoire des villes du transport gratuit.
On a des limites évidemment financières, hein, des maires qui arrivent aux manettes dans leur ville et puis qui voient que la situation financière de leur commune ou de leur intercommunalité est compliquée. Donc ils vont décaler leur projet ou ils vont le phaser. Hein, d'abord peut-être la gratuité le week-end et puis ensuite la gratuité totale si on arrive à trouver de nouveaux financements.
C'est le cas de Montpellier qui vise la gratuité totale pour 2023. Les transports sont aujourd'hui financés par trois ressources, des subventions, une taxe sur les entreprises et donc la participation des usagers.
Merci Thibault Lefebvre, effectivement, les financements, on va en parler. On va à Montpellier et ses transports donc en commun gratuit depuis ce matin. Montpellier, la plus grande ville de France, a adopté cette mesure. Bonjour Michael Delafosse.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Inter. Vous êtes maire de Montpellier, président de la métropole. Alors, les transports gratuits, j'imagine que vous ne recevez que des messages de remerciement.
Ah ben écoutez, ce matin, je suis allé en tramway à la rencontre des Montpelliens, et effectivement, ils étaient ravis. Pour deux choses. D'abord parce que c'était mon engagement de campagne, et il se met en œuvre. Et c'est un élément de crédibilité. Et le second, avec des témoignages très divers, en disant, moi je l'ai pris j'ai téléchargé l'application pour mon mari, parce que comme ça il va laisser sa voiture chez lui. Tous les enfants l'ont téléchargé, et on va donc aller dans les Cussons, le centre-ville de Montpellier, en transport collectif. Cette mesure, nous l'avons prise parce qu'elle permet de changer le rapport à la ville, le rapport aux mobilités. Moi, j'ai été frappé, et je le dis, quand j'ai vu les jeunes marcher pour le climat. Je suis professeur, mes élèves quittaient les salles de classe pour aller marcher pour le climat. Et cette mesure, je la vis comme une réponse à la jeunesse qui nous demande d'agir pour le climat. C'est-à-dire les transports collectifs, ils émettent pas de CO2, ils préservent la qualité de l'air qu'on respire. Et donc, il faut les développer. Et puis, il y a une crise sociale, celle des gilets jaunes, qui quand le prix de l'essence a augmenté, bien ils ont dit là, des gens ont dit c'est difficile. Et donc c'est aussi une mesure de justice sociale. Alors l'enjeu, c'est de changer les comportements de mobilité, délaisser la voiture, privilégier les transports collectifs. Et à Montpellier, nous avons un très beau réseau que nous allons continuer à améliorer avec la réalisation d'une ligne 5 de tramway, des bus à haut niveau de service et une politique très volontariste autour du vélo, puisque 20 km de pistes ont été mises en service durant l'été pour mettre en sécurité les cyclistes dans leurs déplacements.
Alors, Michael Delafosse, vous démarrez depuis ce matin sur les transports gratuits, mais déjà plusieurs villes ont testé la mesure. Il semble qu'en fait, selon certains bilans, notamment à Dunkerque, il semble que cela n'incite pas les automobilistes à prendre les transports gratuits, mais plutôt les cyclistes et les piétons. Vous l'avez déjà remarqué ?
Non, je ne le crois pas. Ouais. Je ne le crois pas. Je pense que si on fait la gratuité seule des transports, on ne sera pas bon. Il faut aussi parallèlement mener une politique pour le partage de la voirie au profit du vélo. Il faut travailler sur le chemin des écoliers pour éviter que les parents déposent leurs enfants en voiture. C'est un enjeu qui me semble important. Et c'est bien en ayant une approche systémique, globale des mobilités qu'on y arrive. Et la gratuité est une de ces approches. Et c'est le choix qui est le nôtre. C'est pas juste la gratuité pour faire plaisir. C'est la gratuité dans un ensemble de mesures. Et je crois qu'il y aura du report entre ceux qui utilisent la voiture pour aller vers les transports collectifs. Dans la deuxième phase, on va mettre en place la gratuité par mesure d'âge. Hein, on y va progressivement et à mi-mandat, gratuité totale. Pour les moins de 18 ans et pour les seniors. Il faut qu'on habitue les jeunes à avoir un rapport à la mobilité autour du vélo, autour du transport collectif. Et donc, ça va nous aider à changer les habitudes.
Donc, je retiens, Michael Delafosse, gratuité totale dans 3 ans à mi-mandat pour les 470 000 habitants de l'agglomération.
Pour l'ensemble des habitants de notre métropole.
Mais dites-moi, sur le financement, quand même, Michael Delafosse, bon, je comprends bien que pour les usagers, c'est formidable, hein, les transports gratuits, mais pour les usagers qui sont aussi des contribuables de Montpellier.
Alors, écoutez, mais c'est normal de poser cette question. À Montpellier, on a l'une des fiscalités les plus élevées de France. C'est une réalité, souvent vous en rendez compte. Et donc, c'est un choix. C'est un choix dans notre budget. Et le coût de la gratuité, dans notre budget, c'est 5% des dépenses de fonctionnement. Alors si un maire, moi, j'ai pas été candidat pour être maire pour me plaindre. Je suis maire pour agir. Et donc, je dois redéployer des crédits. J'ai, par exemple, annulé les mesures de gratuité des parkings. Voilà, c'était prévu, mais on a dit on va rendre payant les parkings pour financer la gratuité des transports. Il y a un projet d'un bâtiment d'archives municipales. Le département a lui-même construit un bâtiment d'archives. Eh ben, nous allons travailler avec le département pour pas avoir ces surcoûts en dépenses de fonctionnement. Et donc progressivement redéployer les crédits. Vous savez, Pierre Mendès France disait gouverner c'est choisir. Eh bien, nous faisons un choix. Nous faisons le choix de la gratuité. Nous faisons le choix de du partage de la voirie, pour les vélos. Nous faisons le choix que Montpellier entre de manière très volontariste sur les mobilités en transition écologique.
Et on entend le tram derrière vous. Merci beaucoup, Michael Delafosse, maire de Montpellier, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Alors, cette gratuité des transports va bien sûr beaucoup plaire aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens pour aller en cours lorsqu'il y a cours. Mais la première semaine d'école a été plutôt classique, selon Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Si l'on met de côté le port du masque obligatoire dans les collèges, selon le ministère, 22 établissements et une centaine de classes ont tout de même dû fermer en raison de contamination. Et ce matin, Emmanuel Wargon, ministre délégué en charge du logement, veut rassurer les parents. Nous allons trouver, dit-elle, des solutions dans les jours qui viennent pour que les parents puissent garder leurs enfants quand les classes sont fermées. Concernant le vaccin, hier, l'OMS a annoncé que la vaccination à grande échelle ne pourra pas commencer avant le milieu de l'année prochaine. Mais on a déjà une idée du prix du prochain vaccin. Olivier Bogilot, patron de Sanofi France, était l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho. Pardon.
Le prix n'est pas encore totalement défini puisqu'on n'est même pas encore totalement sûr de notre dose. On est en train de mesurer l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent. Mais on sera moins de 10 euros.
Moins de 10 euros, bon, mais d'autres seront peut-être à 2.
Alors, AstraZeneca a annoncé qu'ils auraient la possibilité d'avoir un vaccin autour de 2,50 €. Mais la différence de prix peut être, pour nous par exemple, le fait qu'on utilise toutes nos ressources en interne. AstraZeneca a beaucoup sous-traité en fait une partie de sa production.
Et ce vaccin, il sera fabriqué où ?
Pour la plaque européenne, il sera fabriqué en France. À Vitry, hein, on a une
cuve. Ça, c'est une information.
Ouais, on a une cuve de culture cellulaire qui était mobilisée jusqu'à présent pour des anticorps monoclonaux. Donc, on a arrêté cette production-là temporairement. On a réalloué une partie de nos ressources. Et l'idée, c'est effectivement qu'on utilise ce centre pour pouvoir produire notre antigène sur le vaccin.
Voilà, moins de 10 € selon Olivier Bougilot, patron de Sanofi France, pour le prochain vaccin. Et je vous signale le visa d'or décerné à Fabio Bucciarelli pour sa couverture du Covid. Le photographe italien a remporté ce matin à Perpignan le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image pour un reportage à Bergame, ville italienne à l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Rentrée politique à droite notamment. Ce week-end, les Républicains tiennent leur université d'été au Port Marly, dans les Yvelines. Une rentrée tiraillée par les ambitions des poids lourds de la droite. François Baroin, dont le nom émerge également pour 2022, doit s'exprimer cet après-midi. Mais voilà, François Baroin n'est pas intéressé, croit savoir notamment le Figaro. Damien Abad, le président du groupe Les Républicains, était l'invité ce matin d'Éric Delvaux dans le 6-9 de France Inter.
Beaucoup de choses sont dites, sont écrites, beaucoup de monde parle au nom de François Baroin, mais moi je fais confiance qu'à l'intéressé, à son expression personnelle, et il l'a dit, il donnera sa décision à l'automne, c'est-à-dire que ça sera certainement effectivement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Certains y voient un certain nombre de signaux négatifs. Moi, ce que je peux dire simplement aujourd'hui, c'est que François Baroin vient aux universités d'été, ce qui est déjà un signal politique fort d'attachement à sa famille politique, et que sa décision, c'est aussi une décision qui est lourde de conséquences, une décision personnelle qui a aussi un impact familial majeur. Et parfois, je trouve même que c'est sain aussi d'avoir cette réflexion-là. On a tellement de femmes et d'hommes politiques qui veulent tous être président de la République à tout moment et qui sont finalement dévorés par leur seule ambition que je trouve que c'est plutôt sain d'avoir finalement cette introspection personnelle. Donc respectons ce temps-là, et moi je trouve que l'automne, c'est un bon calendrier. Ensuite, on aura un an et demi pour décider de notre candidat si jamais il n'y va pas.
Damien Abad avec Éric Delvaux. Au Mali, rendez-vous important aujourd'hui. La concertation nationale promise par les militaires qui ont pris le pouvoir démarre ce matin. Objectif, définir qui d'un civil ou d'un militaire mènera la transition et pour combien de temps. Si la population malienne a plutôt réagi favorablement au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, d'autres s'interroge sur le devenir de cette transition. C'est le cas du rappeur Milmo, une figure à Bamako. Valérie Crova, notre envoyée spéciale, l'a rencontré.
Quand la junte a pris le pouvoir le 18 août dernier, le sang de Milmo n'a fait qu'un tour.
Militaire populiste, population aveugle et motive.
Dans son single intitulé « Coup de poing d'interrogation », Milmo dénonce la confiscation du pouvoir par des militaires.
Dans ma tête, un de l'histoire se répète.
Ça, c'est le quatrième coup d'État. J'ai remarqué qu'à chaque coup d'État, le pays recule de 10 ans en arrière. Donc, est-ce que ce coup d'État aussi ne va pas nous mettre en recul comme tous les autres coups d'État précédents? C'est pourquoi je dis ça. L'histoire se répète.
Certains Maliens y ont vu un soutien au régime de l'ancien président Ibeka.
On pense que ouais, j'ai soutenu. Mais un président qui est déjà parti, pourquoi le soutenir?
Pour Milmo, le coup d'État du 18 août est louche, tout comme le sont les motivations des militaires.
J'en profite pour conseiller aussi ces militaires-là, car je le dis dans le morceau, c'est dans l'ADN de l'Africain de s'accrocher au pouvoir. Donc qu'ils viennent, qu'ils mettent la transition en place et retourner dans les casernes.
Chacun en prend pour son grade dans ce titre qui s'apparente à un brûlot, dans lequel Milmo exprime ses inquiétudes pour l'avenir de son pays. Bamako, Valérie Crova, France Inter.
Lionel Messi reste au Barça, on l'a appris hier soir, et c'est bien sûr ce matin à la une de la presse espagnole. Les journaux se réjouissent, mais la crise de 10 jours avec le club a laissé des séquelles. Messi n'a pas été vu à l'entraînement ce matin à Barcelone. Revue de presse, Marie-Hélène Ballestero.
Il fait bien sûr la une de tous les journaux sportifs espagnols aujourd'hui, catalans comme madrilènes, et le titre qui s'impose est sans surprise, Se queda, il reste. Du côté des catalans, le journal Sport se réjouit et met aussi en couverture les principales phrases de l'interview que Messi a accordée hier au site goal.com. Mundo Deportivo titre, je reste et je donnerai le maximum, mais il insiste également sur le message dévastateur envoyé par la Pulga à la puce à la direction du Barça et notamment au président Josep Maria Bartomeu. Les deux principaux journaux sportifs madrilènes, As et Marca se félicite aussi de la décision de l'attaquant argentin. As a choisi d'afficher à sa une la déclaration tonitruante de Messi « Jamais je n'irai en procès contre le club de ma vie ». Quant à Marca, le journal le plus lu en Espagne, il va plus loin. Messi reste, mais la crise aussi, la plus grosse crise du Barça selon le quotidien, qui souligne que l'argentin continue, mais à contre-cœur. Et sur le site de Marca, on s'interroge sur les conséquences de la continuité de Messi, en soulignant que le Barça va devoir gérer une situation délicate. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Football encore avec l'équipe de France qui joue ce soir son premier match de Ligue des Nations, premier match international après 10 mois d'absence. Et l'équipe de France avec Adrien Rabiot, finalement pardonné de n'avoir pas voulu être réserviste pendant le Mondial. L'équipe de France affronte la Suède à Solna. Le Tour de France avec un menu pyrénéen ce week-end, 8e étape aujourd'hui entre Gazères-sur-Garonne et Loudenvielle, et 3 cols au programme. Sur la route du Tour, en direct, on retrouve Jean-Pierre Blimeau. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre Blimeau.
Oui, bonjour.
Eh ben alors, dans les Pyrénées, ça capte mal. 8e étape aujourd'hui. Est-ce que l'étape s'annonce passionnante, Jean-Pierre ?
Oui, bah écoutez, c'est la première des 2 étapes pyrénéennes. Hein. Adam Yates est toujours en jaune. Le Britannique qui va devoir se méfier tout de même des favoris qui sont en embuscade. Hein. Primoz Roglic à 3 secondes. Le premier français du classement général, Guillaume Martin à 9 secondes. Et puis Egan Bernal, vainqueur l'an dernier du Tour de France. On attend surtout la première grande explication entre favoris. Et ces 2 étapes pyrénéennes ce week-end vont peut-être servir à cela. L'arrivée à Loudenvielle ce soir et l'arrivée à Larens demain. En tout cas, au programme aujourd'hui, 3 cols, vous l'avez dit. Le col de Mantet au 91e kilomètre, le port de Balès au 104e et surtout Persourde au 129e avant 11 kilomètres de descente. Ça pourrait être le juge de paix. Côté public, l'accès a été restreint. Des navettes ont été mises en place par l'organisation, notamment au port de Balès. Et puis des parkings hein, avec accès à pied sont également mis en place pour cette étape qui sera l'une des plus courtes du Tour. 141 kilomètres, pas très longue, mais donc avec 3 ascensions et peut-être très nerveuse.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Finalement, on vous a très bien entendu dans les Pyrénées. On traverse la France direction Deauville où s'est ouvert hier soir le festival du film américain, sans stars américaines mais avec une programmation riche. Plus de 70 films seront projetés. En direct de Deauville, on retrouve Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
46e édition et c'est un bien étrange festival qui vient de s'ouvrir pour 10 jours.
Je veux dire, tout est singulier en ce moment, mais ici c'est singulier et heureux. Ce qui était normal hier, un festival après un autre, eh bien on a le sentiment que c'est précieux et ça se voit partout. Par exemple, il y avait une vidéo de Michael Douglas, qui a pas pu venir, mais qui a envoyé une très belle vidéo pour l'hommage à son père, Kirk Douglas. Il dit, il est mort pendant le Covid, eh bien c'est la première fois qu'on lui rend hommage. Il a dit que la vie de son père était une histoire américaine, celle d'un fils d'immigré juif biélorusse qui est devenu Kirk Douglas, qui a lutté contre le macartisme et l'antisémitisme. Et le film d'ouverture qui est en compétition, un très joli film, est aussi une histoire américaine et une histoire d'immigration. Ça s'appelle Minari de Lee Isaac Chung, immigration d'origine coréenne plus récente. Le petit garçon du film, c'est lui, probablement. Comment il doit s'habituer à sa nouvelle vie? Son père espère devenir un agriculteur riche dans l'Arkansas et il doit s'habituer à une grand-mère venue de Corée que, déjà petit américain en devenir, il trouve très coréenne. Voilà. Et puis c'est aussi, le festival est singulier cette année parce que c'est pas juste un festival du cinéma américain, c'est un festival, j'ai envie de dire, tout court. Sont accueillis ici des films de Cannes qui n'ont pas pu être montrés parce que le festival n'a pas eu lieu. Par exemple, aujourd'hui, un film de genre, un film d'horreur français formidable, Teddy. Et puis on verra tout à l'heure, très attendu, Peninsula du film coréen, qui est en quelque sorte la suite du Dernier Train pour Busan, qui avait été un énorme succès, entre autres choses.
Merci Eva Bétan en direct de Deauville. Le cinéma qui perd une excellente actrice, une actrice émouvante. Annie Cordy est morte hier soir, elle avait 92 ans. Annie Cordy qui avait débuté au cinéma avec Sacha Guitry et qui avait monté les marches à Cannes aux côtés de Catherine Deneuve, était aussi bien sûr une chanteuse rigolote, comme elle le disait elle-même, et une légende du musical, une légende infatigable. Annie Cordy fait partie de notre histoire, c'est notre patrimoine commun, et on lui dit au revoir avec beaucoup de tendresse.
Eh bien, dis-le que je bois trop.
Tu bois trop, moi.
Je bois pour oublier.
Oublier quoi?
Que les hommes sont des salauds. Tu les emportes quand, mes voitures à réparer?
Après-demain.
Pourquoi pas demain?
Demain, j'ai un mariage.
Dis plutôt que ton mari ne veut pas que tu me vois.
Il veut pas que je vienne ici, c'est pas pareil. D'ailleurs, t'es invité toi aussi, t'as qu'à venir.
J'ai vu le mien de mariage, ça me suffit.
C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est.
Hommage à Annie Cordy. Montage réalisé par Benjamin Ducy. Annie Cordy, plus de 70 ans de carrière et un succès fou. La météo ce week-end avec aujourd'hui un ciel très partagé, Jean-Michel Golinski.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Une masse d'air plus fraîche s'installe du nord de la Loire au Grand Est. Cet après-midi, les valeurs maximales vont s'orienter entre 17 degrés près de la Manche et 22 du Val-de-Loire au bassin parisien jusqu'à la Lorraine, sous un ciel variablement ensoleillé mais généralement sec. Dans la moitié sud, le bleu s'impose avec quelques brumes côtières sur le Languedoc et les Bouches-du-Rhône et tout de même une ambiance beaucoup plus terne le long des Pyrénées avec l'arrivée progressive de grisailles par le Pays Basque. Le tout dans des températures à peu près du même niveau qu'hier, de l'ordre de 32 à Lyon, 31 à Toulouse et généralement entre 26 et 29 degrés sur les autres régions de la moitié sud. Demain, à part la levée du Mistral et de la Tramontane, le quart sud-est va conserver le soleil et la chaleur. Ailleurs, fraîcheur, nuages et soleil vont alterner, avec un risque d'ondées l'après-midi près de la Manche et sur les Alpes du Nord, une nébulosité plus importante au sud de la Garonne et souvent de l'orage l'après-midi sur les Pyrénées orientales.